Parce que Top Chicago, c'est déjà la deuxième heure de ce 1109e épisode. En ce samedi 5 juin, on vient d'entendre Awek. Tell Me What's the Reason sur l'album Awek chez Absilon. Voilà. Et on poursuit avec le disque coup de cœur du mois. Juste après, vous allez pouvoir découvrir l'album de Rosedale et intervenir dans cette émission pour cette interview en direct avec Amandine Rose et Charlie Faber, respectivement chanteuse et guitariste de Rosedale. Voilà, ça va être à vous dans quelques minutes. On poursuit là tout de suite avec Delta Cream, cet album des Black Keys, ça s'appelle Louise. Du mois pour juin 2021 pour Sweet Home Chicago sur le 666. C'est l'album des Black Keys qui s'appelle Delta Cream. On en découvrira tout à l'heure un nouvel extrait. En attendant, place à Rosedale, les invités du jour. C'est le titre Ghost For You, extrait de l'album Rosedale.
Endless hill to climb, climb.
For You, c'est ainsi que démarre cet album de Rosedale, qui s'intitule tout simplement Rosedale. Ça ferait partie des questions que je vais pouvoir leur poser tout à l'heure. Mais d'abord, j'accueille Amandine et Charlie. Bonjour, les amis.
Hello, Marc.
Ah, dis donc, c'est même pas concerté, c'était vraiment tous ensemble. On vous entend super, presque.
D'accord.
Non, c'est parfait, vous êtes dans la pièce à côté. Amandine, bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Bah, très bien, écoute, de l'autre côté du poste. Et Charlie, ouais, tout va bien?
Super, on écoute ton émission depuis tout à l'heure, c'est vachement bien, hein, tu devrais faire de la radio.
Ah bah écoute, je vais essayer d'y penser, il n'y a pas de problème. Je connais un gars sympa qui va me filer un coup de main, il fait une émission sur Radio 666 je crois, il va falloir qu'il me briefe. Parce que... et alors voilà, j'allais dire, moi je suis vraiment heureux de reprendre contact avec vous parce que c'est à l'occasion de la sortie de ce troisième album. Je vais savoir, il s'est passé quoi depuis notre dernière interview? Alors la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en août 2019, c'était au festival de Megève, et notre dernière interview ici, c'était en mai de la même année, il y a deux ans, donc c'était à l'occasion de votre venue au Souboc. On va tout prendre depuis le début, d'abord votre rencontre mutuelle en 2013, la création du groupe trois ans plus tard en 2016, et puis plusieurs changements de musiciens. Alors il y a eu pour Rosedale, on va dire, une reconnaissance immédiate du petit monde du blues et du blues rock, hein, des tas de beaux concerts et de premières parties, des myriades de rencontres bien sûr, de nombreuses récompenses, et puis la première question, ça serait ça. Quel bilan est-ce que vous tirez, toi Amandine, toi Charlie, de la période Rosedale avec un S, avant la mutation en Rosedale avec un Z?
Alors, c'est difficile. Disons qu'on n'a pas fait vraiment de bilan, parce qu'on a tellement la tête dans le guidon depuis la création du groupe, tellement on vit, on dort, on mange, on boit Rosedale depuis l'existence du groupe en 2016, que voilà, on s'est pas arrêté, quoi. Pour nous, c'est vraiment un truc continu, et on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour regarder en arrière, trop concentré à regarder devant, j'ai envie de dire. Mmh.
Mais par contre, quand on reparle comme ça, c'est vrai que quand on repense, en fait, c'est vraiment un paquet de bons souvenirs. Et ouais, Charlie, il a raison, c'est vrai, on est tellement concentré, je crois, encore plus depuis, parce que là, malheureusement, on a eu beaucoup, enfin malheureusement et heureusement, ça, on se comprend, pendant la Covid, on a eu vraiment beaucoup de temps... Pour penser, et puis tu te rends compte dans ces moments qui sont compliqués, difficiles, qu'il faut vraiment regarder devant, en fait, tu vois, vers l'avenir, vers le positif, pour voir le bout du tunnel.
D'accord. Regarder vers l'avenir, et donc pas forcément le coup de rétro, c'est encore trop tôt. 5 ans d'existence du groupe, à fond la caisse, tu disais, Charlie, on boit, on mange, on réfléchit, on dort, on rêve Rosedale tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment ça, hein?
Ouais, vu qu'on vit ensemble aussi, tu sais.
Et oui, bien sûr, je sais.
Ouais, qu'on a créé le groupe tous les deux, quoi.
Ouais.
Et c'est forcément, on a tout le temps la tête dedans, bah, que ce soit là pendant la période de Covid, c'était vraiment la tête dans les compos, forcément.
Qu'est-ce qui vous a fait tenir le plus? Est-ce que c'est le fait de pouvoir avancer vers ce nouveau répertoire pour l'album qui vient de sortir, là, le 28 mai? Est-ce que c'est la présence aussi de vos fans sur les réseaux sociaux, les projets incessants? Qu'est-ce qui vous fait tenir depuis tous ces mois-là?
Tu veux dire depuis la Covid?
Depuis le 13 mars 2020, ouais. Voilà, c'est ça l'idée, ouais.
C'est effectivement les gens d'une façon différente d'avant, parce que déjà avant, tu nous demandais un peu depuis notre dernière interview, on a eu la chance en 2019, on était vraiment au taquet. Cette année-là, on a fait une soixantaine de dates, on a 9 pays, on est allé à Tahiti, on avait plein de festivals, bah, dont Megève, et d'ailleurs on en profite pour rendre hommage à Stéphane.
Et, oui, oui, l'ami Stéphane qui nous a quittés ces jours-ci, ouais. Bien sûr, oui.
Voilà, à qui on pense fort, à sa famille, et aussi Vienne, voilà, le fameux théâtre antique de Vienne pour Jazz à Vienne avec Ben Harper, etc.
Ouais, cette date avec Ben Harper, avec un amphithéâtre plein, 8000 personnes, un mur de gens en fait devant vous, et puis ce titre qui revient sans cesse sur les réseaux, cette vidéo qui a été captée de ce fabuleux titre, The Kind of Man You Are, ça c'était vraiment un sommet.
C'était un moment magique, quoi, vraiment pour nous. Comme tu dis, c'est vraiment un mur de... Claude Nougaro avait dit c'est un mur d'humanité en parlant de Vienne quand il y avait joué. C'était vraiment ça, quoi. Et il y a eu cette ambiance qui s'est créée à cet instant avec, malgré 8000 personnes, une sorte d'intimité et de proximité vraiment, vraiment unique, quoi. C'est vrai que c'était un moment très, très fort pour nous et qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Voilà, ce bilan 2019 avec tous ces pays visités, notamment le festival à Tahiti avec Kali. Kali, on va en parler tout à l'heure quand on évoquera le nouvel album, bien sûr. Plein de rencontres. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Là, en mars 2020, vous êtes confiné et vous êtes contraint au succès parce qu'il faut travailler.
Alors, je t'avoue, ouais, c'est vrai que 2020, quand on s'est pris ça dans la figure, tous, hein, je parle vraiment de tout le monde, de tous les gens. Au tout début, on s'est dit ça va durer, allez, un mois maximum, 2 mois. On savait pas quoi, comme tout le monde. Et au fur et à mesure, des dates qui s'annulaient. Et à la fin, tu vois, on a perdu 70 concerts. Là, par contre, c'était vraiment la douche froide et ça fait forcément super mal. Et le fait d'être à la maison, de te dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant et tout, comment on fait. Et un jour, on a eu un appel de Féfé. Donc, il y a notre manager, et il a dit, les gars, est-ce que ça vous dit que je produise votre prochain album? Alors, nous, évidemment, on a dit, avec grand plaisir. Et ça nous a donné un objectif. Donc, avec Charlie, si tu veux, tous les jours, on travaille là-dessus. Et en parallèle, ce qui nous a aidé beaucoup aussi moralement, c'est qu'on a créé, je crois que tu l'as vu, on avait appelé ça le Pandésic Festival.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, tous les soirs, on avait fait ça un mois tous les soirs, pendant une demi-heure, on apprenait tous les jours 5 titres, en fait, et on faisait un live sur Facebook pour retrouver les gens et pour essayer d'apporter aussi quelque chose. On s'est dit, en tant qu'artiste, c'est aussi notre rôle à nous de faire ce qu'on peut pour peut-être apporter quelque chose à des gens qui sont peut-être aussi tout seuls, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient tout seuls, qui n'avaient pas forcément de quelqu'un à la maison ou de contact.
C'est ça, voilà, briser le silence, justement, par les réseaux sociaux, ça joue un rôle vraiment important. Comment est-ce que vous avez dompté ce média avec lequel, effectivement, vous avez fait passer quasi quotidiennement vos infos et votre musique, ouais.
Hein. Mais c'est vrai que c'est un lien qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Le confinement tel que toute la France, enfin, tout le monde l'a vécu, aurait été très différent si c'était arrivé il y a quelques dizaines d'années. Ouais. Mais c'est vrai que grâce à ça, on a pu garder ce lien. Et effectivement, les gens sont notre carburant. Nous, on préfère 1000 fois les retrouver dans la vraie vie, en live, sur une scène. Mais disons que c'était on était content d'avoir ce substitut, voilà. Pendant qu'on était coincé chez nous, quoi.
Voilà, donc les deux moteurs, effectivement, le fait de pouvoir interagir avec vos fans sur votre page Facebook, Rosedale notamment, et puis cet objectif de l'album qui est maintenant sorti, qui est maintenant derrière vous, et vous êtes en pleine promo, et puis on est en pleine interview, ça tombe bien. On va d'abord parler, avant d'évoquer l'album en lui-même, des nouveaux musiciens qui jouent avec vous. Est-ce que on peut parler d'abord du batteur Hervé Koster? C'est un autodidacte de base. Le garçon est né à Annecy. aussi. On l'a vu derrière les fûts avec plein de gens de la variété ou du rock, comme Véronique Sanson, Vanessa Paradis, Manu Dibango, Jean-Jacques Goldman, Zazie, Renaud, Sinclair, Yannick Noah, Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, même Trust. Comment est-ce que ça a opéré cette rencontre avec Hervé Koester?
Alors en fait, je rectifie sur un truc, c'est pas les nouveaux musiciens qui jouent avec nous, c'est seulement les musiciens qui jouent sur l'album.
Oui.
Et ça s'est fait parce que donc Balade un tour production a produit
entièrement
cet album. C'était au studio ICP. Et une production comme ça, enfin il y a deux raisons hein, au fait soit qui joue sur l'album. La première, c'est qu'une production comme ça, c'est un coup. On a enregistré l'album sur une semaine et l'album est plein d'arrangements et de pistes, etc. Donc il y avait vraiment un gros travail à faire. Et voilà, faut être sûr d'assurer les timings et pour ça avoir des musiciens qui ont vraiment l'habitude du studio. Et n'importe quel musicien te le dira, le studio et la scène, c'est vraiment deux boulots très différents. Et du coup toute cette équipe avec Hervé Koester à la batterie, Hicham Zougart à la basse, Zou, et Michael Lecoq au clavier, c'est une équipe avec laquelle Fefe, notre producteur, a l'habitude de travailler.
Voilà, d'accord. On recontextualise tout. Effectivement, ces musiciens figurent sur l'album pour la raison pour laquelle, c'est que ça va plus vite parce qu'ils sont tellement habitués à toutes les ficelles du studio. Vous avez mis une semaine seulement, alors qu'on entend des arrangements, ça aurait pu prendre 3 mois un groupe comme Pink Floyd de faire ça, non?
Alors, en tout cas, Fefe, ce qu'il fait en général, c'est ce qu'il nous disait justement, c'est que selon le projet, selon le style de musique, il sait à qui il va penser. Donc là, c'était l'équipe à laquelle il a pensé parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses avec eux dans ce genre de contexte. Et puis voilà. Quoi. Et puis il nous a évidemment demandé notre avis. Nous, on a écouté et ça collait à la couleur et aux idées de ce qu'on voulait. Et
oui, parce qu'il y a aussi le côté où les morceaux étant ayant une orientation un peu différente, c'était aussi vachement intéressant. Si tu veux, d'avoir une approche différente, quoi, voilà, à tout niveau, chose dont on a parlé avec notre équipe
et qui
trouvait ça aussi super intéressant, quoi, voilà.
D'accord. Donc, alors voilà, donc ça veut dire que les 3 prochaines questions sont déjà éludées parce que j'allais vous parler effectivement du batteur Hervé Koester, du bassiste Hicham Zougart et puis du pianiste Michael Lecoq avec respectivement des pédigrés incroyables, des gens avec qui ils ont joué. Je sais pas, même un garçon comme Hicham, le bassiste, lui, il se produit dans des styles plutôt très très variés, le jazz, le funk, le hip-hop, le hard rock avec le gang. Enfin c'est juste incroyable. Michael Lecoq, vous avez l'habitude de jouer avec des bons pianistes, mais lui il a joué avec André Ceccarelli, Jean-Luc Ponty, Birilli Lagraine, et puis aussi des gens de la variété française, comme on a évoqué tout à l'heure. Toutes ces rencontres-là, elles ont été possibles grâce à votre producteur, donc Ferhat Fefe Makouken, hein, c'est ça?
Absolument. Ouais.
Alors, donc, qui dit nouveau musicien, dit peut-être excite les musiciens précédents, ou pas du tout. La vie d'un groupe, j'ai envie de dire, c'est comme la vie, c'est fait de rencontres et de séparations. Alors, tout le monde va rebondir, il y a des gens qui sont restés, d'autres qui vont partir. Ça n'a pas été trop difficile, ce changement de personnel?
C'est comme tu dis, c'est la vie d'un groupe, c'est jamais évident. Comme tu as dû le voir sur les réseaux, on s'est séparé de Denis Balata, voilà, pour des raisons qui regardent que lui et nous, on lui souhaite le meilleur, voilà. Mais c'est comme ça, comme tu dis, c'est la vie d'un groupe. Il faut avancer, aller de l'avant, et voilà quoi. Il y a aucune haine là-dedans.
Il y a pas de haine, il y a pas de rancœur, et puis faut regarder vers l'avenir. En tout cas, c'est ce que vos premières réponses montrent. Vous êtes, Charlie et Amandine, résolument tournés vers l'avenir. La production de cet album, j'ai l'impression que Fefe, il a eu pratiquement carte blanche pour réaliser ce disque avec les musiciens auxquels il a pensé, et puis on aboutit à une espèce de cohésion magique comme ça, ou simplement une semaine de studio avec le résultat qu'on entend. Le groupe Rosedel avec un contenu un peu différent de ce que vous faisiez habituellement. On va en parler après, peut-être un premier extrait. J'ai d'autres questions pour vous, Amandine et Charlie. Je vous garde au chaud et puis on écoute un nouvel extrait.
Okay.
À tout de suite, ça s'appelle Burning. Burning du groupe Rosedel.
Time goes by and things change. What we held strong yesterday is slipping off our hands. Looking away. We feared the light, but you never missed the water till the well runs dry. world we spend in denial. We tiptoe on the wire above a world on fire. It's burning down. It's burning high. As we fade, still believing. It's burning down like the sun. Burning high. And we just watch it burn. The less we try, laying down the truth to pretty fire the day. Waiting on a first step to follow. We'll wait on the crowds we'll bear tomorrow. And the bill is getting higher each day that we spend.
Burning, extrait de l'album de Rosedale, qui s'appelle tout simplement Rosedale. Je suis toujours au téléphone avec Amandine Rose et Charlie Faber, chanteur et guitariste de Rosedale, en direct dans ce 1109e Sweet Home Chicago sur le 666. Merci d'être toujours là.
Ah
bah, on vient d'entendre Burning, dans lequel intervient un certain Louis Bertignac. On se souvient, enfin vous vous en souvenez, peut-être pas tous les auditeurs, que ce garçon a été guitariste de Téléphone. Et vous, vous êtes carrément né après la séparation de Téléphone. Comment ça se fait que vous êtes toujours fan de ce groupe? J'ai lu ça quelque part.
Bah, en fait, depuis tout petit, hein, je crois que Charlie, moi, tous les deux, dans nos familles, ben. Tu pouvais pas éviter Téléphone, quoi. Dans tous les cas, ça tournait à la maison et tout, et c'est quelque chose avec une musique avec laquelle on a grandi.
Voilà. Je pense que ça a traversé les générations.
Ouais, aussi.
Ouais, c'est un peu subliminal comme groupe, quand même. Hein.
C'est voilà, c'est en France, ils font quand même partie. Voilà quoi, des noms qu'on peut pas zapper quoi.
Ouais.
Alors au-delà du rôle de votre réalisateur, de votre producteur Féfé, dont on va parler, qu'est-ce que ça fait juste de se dire tiens, il y a Louis Bertignac qui intervient dans un de nos titres sur l'album. Ça vous a fait
bizarre.
Bizarre, ouais.
Bah, bizarre dans le sens, c'est très bizarre de lire son nom sur l'album et de se dire purée, on l'écoute toujours, mais je l'ai tellement écouté quand j'étais petite dans ma famille.
Mmh.
Donc ça me fait très, très bizarre. Voilà, moi, ça me fait ça. Et je suis très fière aussi. Enfin, on est très fiers. Et voilà.
Très bien.
Moi, j'ai fait mes armes, tu sais, sur des riffs de Téléphone, comme plein de guitaristes, et de se dire que le mec qui a écrit ses riffs et qui jouait ses riffs joue sur un morceau qu'on a écrit, c'est ultra touchant. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu te dis waouh.
Un espèce de passage de flambeau, on pourrait dire. Hein.
Ouais, en tout cas, c'est vraiment dans un esprit de communication, de partager de la musique, et ouais, c'est vraiment super, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de la conception de l'album? Pourquoi d'abord un enregistrement à ICP à Bruxelles? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce studio? Parce qu'il y a également Gaël Busvel qui a enregistré tout récemment.
Bah, c'est les studios ICP, c'est vraiment des studios mythiques où, je veux dire, presque tout le monde a enregistré, c'est une valeur sûre. Il y a tout le matos possible et imaginable, il y a des gens qui ont l'expérience, et ainsi de suite, quoi. Donc c'était vraiment un super lieu pour enregistrer, quoi. Et puis on se retrouve un peu dans une bulle enfermée dans le bon sens du terme, quoi. Et c'est vraiment important pour travailler sur la musique.
Oui, bon, on peut se concentrer peut-être de façon plus profonde, plus sérieuse.
Ouais, il faut pouvoir s'isoler, sortir du quotidien, tu sais, des problèmes de la vie, mais des choses de tous les jours pour vraiment s'enfermer, et ensemble, justement, en groupe, avec plusieurs musiciens, avec l'équipe, et former une armée, façon de parler, solide, pour aller dans ce même sens et percer ce mur-là, quoi, tu vois.
Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était possible, carrément, de se couper des infos ou même des réseaux sociaux pendant toute une semaine? C'est ce que vous avez fait ou pas du tout?
On l'a pas fait. Après, c'est sûr qu'on n'avait pas la tête collée non plus au téléphone, parce que on était occupés. Mais ça fait beaucoup de bien aussi, parce que on est allé là-bas en pleine au mois de juin 2020, donc c'était vraiment la première, on va dire, sortie depuis longtemps, et puis de pouvoir faire ça, ça a vraiment fait beaucoup de bien, quoi. Ouais.
Alors, on a parlé de Féfé, Ferhat Imakouren dans la réalisation. Son rôle, c'était quoi, en fait? En dehors de vous faire rencontrer ces musiciens incroyables, et puis de vous faire jouer tous ensemble, et de vous faire obtenir ce son groupe que vous avez définitivement sur le disque, quel était son vrai rôle?
En fait, l'album n'a pas été réalisé uniquement par lui, hein, il a été réalisé par lui et moi-même.
Oui.
Et pour revenir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure, pour rectifier ça, tu disais qu'il a eu carte blanche, mais en fait, c'est plus nous qui avons eu carte blanche, tu veux. Et le travail qui a été fait, en fait, c'était... il était là depuis le début. Je crois que c'est honnêtement, musicalement parlant, la collaboration la plus intéressante qu'on ait fait jusque-là, parce que à chaque démo... Chaque idée, on s'envoyait les fichiers par Internet, on écoutait, on s'appelait tous les jours, Amandine et moi, pour échanger nos idées, nos avis, et tout ça dans le sens de la musique, et de vouloir améliorer les chansons ou tirer le meilleur de chaque morceau, tu vois, de chaque mélodie, se dire comment faire pour que ça retombe pas à tel moment, comment apporter quelque chose de magique, entre guillemets, à tel endroit.
Donc ça, c'est impliqué
important.
Ouais, ouais, ouais. Important, cette collaboration, on s'en rend compte au quotidien, et ça impliquait justement pour lui une espèce de disponibilité H24, non?
Ouais, c'est ça. en tout cas, une disponibilité extrême, ça c'est certain, et c'est sûr que cet album n'aurait pas été le même sans lui, quoi. Mais ce qui a été super, c'est qu'à aucun moment il nous a contraints à quoi que ce soit, à aucun moment il nous a imposé quoi que ce soit.
D'accord.
Voilà, tout a été vraiment fait d'un commun accord, et c'est pour ça que c'est une collaboration qui fonctionne, quoi.
J'ai une question par rapport à Rosedale, justement. On parlait de Rosedale avec un S, maintenant Rosedale avec un Z. Et puis, pourquoi pas un titre d'album? Est-ce que c'est pour insister sur le changement d'orthographe du nom du groupe, ou pour une autre raison?
C'était principalement ça, oui, j'ai envie de dire. Quand on a annoncé qu'on changeait une lettre, bon, on a remarqué assez vite que c'était rentré dans la tête des gens plutôt rapidement, et qu'ils s'amusaient même du Z. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à inventer le mot les roses des liens, tu sais.
D'accord.
Et oui, on s'est dit c'est bien de le mettre sur l'album comme ça, juste ça. Parce que voilà, c'est un nouveau nom. Et
puis ça vous démarque davantage par rapport au nom d'une ville américaine, je crois, au niveau des recherches sur Internet. C'est peut-être plus simple. Ça vous fait pas regretter d'avoir pris le Z dès le départ, il y a 5 ans?
ça aurait été peut-être... oui, en fait, on n'y a pas pensé, je t'avoue.
Je crois que tout est écrit, et ce changement de lettre arrive bien avec ce nouvel album.
D'accord, voilà.
Qui a une direction un peu différente, et aussi parce que... Tu connais tous ces albums, c'est souvent les premiers albums de groupe, hein, qui portent le nom du groupe.
Mais oui.
On a connu ça avec Led Zeppelin, Black Sabbath, etc.
Ouais.
Et nous, ça arrive pour notre troisième album. Et quelque part, vu que c'est un peu un renouveau, on s'est dit que Voilà, c'était écrit. Voilà.
Et je faisais un peu le pendant tout à l'heure avec Awek, le groupe Awek de Toulouse, qui sort son 12e album en même temps que vous et qui s'appelle tout simplement Awek, là aussi.
Ils ont on l'a appris en t'écoutant. Ouais. Tu vois, c'est marrant.
Ouais, parce qu'eux, ils existent, ils sont ensemble depuis 1994. Et voilà, depuis tout ce temps-là. Alors, on va revenir sur les invités. On a évoqué Louis Bertignac, mais il y a également Kali, que vous aviez rencontré à Tahiti lors d'un festival en 2019. Il a écrit cette chanson, unique chanson en français, Ce soir, je t'aime. Un type d'une grande gentillesse, je crois, Kali. Vous aviez sympathisé hors scène.
Oui. Ben, en fait, on était à Tahiti pendant 8 jours. Et du coup...
Je me souviens de vos petites cartes postales. C'était juste écœurant de voir vos petites jambes là, trempées dans les atolls turquoises. C'était juste...
Ah, ouais. C'est un dur métier. Hein.
mon premier vol, j'avais la phobie de l'avion et on a quand même fait 23 heures de vol. Hein.
Incroyable.
Mais c'était bien. Et du coup, oui, on a fait beaucoup de, tu sais, d'excursions, tout ça. On est allé nager avec, par exemple, les requins, les raies. Et donc, on était avec lui et sa famille pendant tout ce temps.
Voilà.
Et évidemment, on connaissait Kali, Charlie et moi. Et, enfin, le connaissait, je veux dire, comme tout le monde. Hein,
de réputation.
Voilà. Ouais. On ne l'avait jamais rencontré. Et en fait, c'est quelqu'un d'une gentillesse.
Phénoménal.
En fait, il est comme on le voit, il est vraiment comme ça, en fait. C'est pas du tout un personnage. Enfin, c'est un personnage, évidemment, mais c'est pas un rôle, quoi, qui tient. Il est vraiment comme ça, ouais.
D'accord, oui. Bah, effectivement, quand on connaît les gens après, hors scène, et puis dans la vie presque familiale, c'était presque les vacances en dehors des concerts, effectivement. J'imagine une semaine à Tahiti, c'est pas forcément pour aller creuser dans le fond de la mine, quoi.
On a fait quelques interviews, quelques trucs, mais effectivement, on a profité quand même de la piscine, de la mer, enfin de l'océan, du soleil, oui, quand même.
Alors, il a écrit cette chanson avec vous, Ce soir, je t'aime. C'est une chanson qui parle de l'amour, mais je crois aussi du harcèlement, du rejet de l'autre, de la solitude et puis peut-être de la détresse que peuvent parfois apporter les réseaux sociaux. Est-ce que ça constitue une mise en garde contre les travers de notre société ou est-ce que je suis à côté de la plaque quand je vous demande ça?
Non, arrêtez. En fait, c'est nous, quand on a lu le texte, on l'a vraiment ressenti. Effectivement, on voit tout de suite le côté du rejet des gens peut-être différents, des gens atypiques, particuliers, ou même de gens normaux, j'ai envie de dire, qu'on considère normaux. Le côté réseau, ça, c'était... Moi, effectivement, j'en avais parlé dans d'autres interviews, c'était mon ressenti aussi, parce que je pense que, tu sais, quand tu lis un texte d'une chanson, tu peux vraiment te l'interpréter aussi à ta manière. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Oui, pour tous les enfants qu'on voit, surtout... je t'apprends rien, le harcèlement des enfants. Je dis toujours à l'école, avant, ils rentraient chez eux, avant Internet, ça s'arrêtait. Ouais, et puis maintenant, ils sont poursuivis avec ça et on a vu les drames que ça peut provoquer.
C'est vrai, c'est du H24, oui.
Voilà. Et j'ai oublié, attends, la fin de cette question. Ah. Une mise en garde. Alors, j'ai envie de dire non, parce que... je pense pas... que cette chanson soit vraiment basée sur les réseaux ou sur tout ça, c'est nous qui l'interprétons comme ça. Mais effectivement, par contre, c'est le côté, voilà, il y a ce côté rejeté de gens atypiques, de gens différents. C'est un peu pour dire, voilà, dans cette chanson, c'est juste une chanson, c'est un gros je t'aime pour tout le monde, quoi, tu vois.
D'accord.
Sans discrimination, en fait. Voilà.
Alors. Cet album, en fait, à l'écoute, à la réécoute, je ne sais pas, j'en suis à 4 écoutes complètes, 4 ou 5 depuis une petite semaine. Cet album est vraiment différent des précédents. En quoi est-ce qu'il est si différent de ce que vous faisiez précédemment? Parce que c'est vrai que les sonorités sont pas tout à fait les mêmes quand on connaît votre discographie. Mais en quoi est-ce que cet album est le prolongement des autres? Il y a énormément d'arrangements de guitare, mais il y a assez peu de solos. Au final, on sent vraiment que l'album est très écrit, non?
Oui, je crois que justement le confinement y est pour beaucoup là-dedans parce que ça nous a poussé à Amandine et moi à travailler différemment. Tous les morceaux quasiment ont été écrits, les bases des morceaux ont été écrits guitare acoustique chant. Et tu sais quand t'as pas une tonne d'arrangements autour pour enrober une chanson qu'elle est à nu comme ça à l'acoustique, c'est là qu'en sort vraiment l'essence principale. Et vu qu'on travaille comme ça, on a vraiment cherché à pousser sur les harmonies, les mélodies, à vraiment faire une recherche d'accords et vraiment essayer d'écrire des vraies chansons, des belles chansons.
Par exemple, avec ce qu'on entend actuellement. C'est Ghost for You, mais version acoustique. Vous avez mis sur le réseau il n'y a pas très longtemps. C'est Rolling Stone France qui a publié cette vidéo. Hein.
C'est ça, absolument. On a fait ça pour leur série In My Room.
Super. Allez, on se met quelques secondes dans les oreilles, tiens. Donc là, effectivement, on est dans le guitare-chant et très, très dépouillé. Effectivement, c'est là qu'après, on peut habiller tout le reste. La chanson, elle est là, elle est pure, elle est déjà sortie de terre, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à l'habiller.
C'est exactement ça. Et le gros travail qui a été justement avec tout le travail de pré-production et après avec les musiciens, ça a été de l'habiller de la meilleure façon possible. Quoi. Voilà, on ne voulait pas... juste faire des, façon de parler, des trucs bateaux. On voulait pas faire de démonstration. On voulait vraiment amener les notes qu'il fallait, là où il fallait. Mmh. Et voilà, par rapport à ce qu'on avait en tête, en tout cas.
Amandine, Charlie, on n'en est pas à une contrariété près, à une contradiction près dans cette interview. Moi, je vais vous poser la question qui fâche. Le rock a toujours été présent dans votre répertoire, dans vos influences. Et puis, le blues, bien sûr. Pourquoi délaisser le blues à ce point? Vos fans vont adorer l'album, mais certains d'entre eux, peut-être, est-ce qu'ils risquent pas de se détourner de ce nouveau projet, même si le blues reste le fil rouge de votre musique? J'ai l'impression que certains fans risquent de ne pas y retrouver leur petit.
Eh bien, écoute, ce qu'on s'était toujours dit avec Charlie depuis le début, vraiment depuis le tout début, c'était que on ferait toujours ce qu'on a envie de faire au moment où on veut le faire, parce que effectivement, on aurait pu refaire un album qui sonnait comme celui d'avant, par exemple, mais on n'avait pas envie de faire ça à ce moment, et on s'était dit de toute façon, on s'est même pas posé la question, parce que faire ça, ça aurait pas été sincère, pas honnête.
Voilà.
Et les gens, ils auraient peut-être dit. C'est pareil, ils aiment et machin. Je sais pas comment expliquer. On n'avait pas envie de. On s'est pas posé la question, tu vois.
Si, t'as répondu. Vous faites ce que vous voulez et puis voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe.
Je tiens à rajouter que ça ferme la porte à rien, vraiment pas.
Ouais. D'accord.
C'était vraiment sur cet instant. Et je pense que ce que veut dire Amandine en disant ça, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui tombent. Dans l'auto-imitation.
Oui, voilà.
Je crois qu'on n'avait vraiment pas envie de ça à ce moment-là, quoi.
Voilà. Très bonne réponse. C'est des changements artistiques qui vont vous apporter forcément un nouveau public. Qu'est-ce que c'est votre ambition actuellement avec ce disque?
Alors déjà, j'ai envie de te dire de faire des concerts tout simplement déjà, ouais. Parce que ça me manque horriblement.
Ouais, bien sûr.
Et effectivement, on a une tournée de prévu tout ça. Et tu sais, malgré tout ça, malgré qu'on voit que les choses se débloquent. Dans notre tête, on garde toujours un tout petit
une petite peur
de se dire on préfère se préparer dans notre tête au cas où il y aurait une vague numéro je sais pas combien.
Numéro 4, c'est la prochaine.
Voilà. Mmh. Tu vois, parce que tu as toujours cette peur de te réjouir trop, mais en même temps,
il n'y a pas de raison.
Bah oui, ça c'est pour l'avenir, effectivement, tous les concerts. Il me reste deux, trois questions vraiment express. On a encore un petit peu de temps ensemble. Le format vinyle pour ce disque-là, c'était vraiment un incontournable en 2021?
Oui, alors déjà parce que ça fait vraiment quelques années qu'on nous demande un vinyle. Là, on a eu l'occasion enfin de pouvoir faire ça. Et du coup, c'est notre premier truc, vraiment le premier, hein, vinyle. On est content. Malheureusement, pour le moment, comme tu le sais, il y a un retard national.
Oui. Non mais on n'est pas obligé de vendre des disques qu'en France, hein, tu sais bien. Il y a l'Allemagne qui s'offre à vous, il y a la Scandinavie, il y a le Benelux, puis il y a les États-Unis derrière en fait, non?
Il y a un retard de production.
Il y a un retard de production.
Non, mais il y a quand même un retard en France pour tout, moi je trouve. Enfin voilà, je sais.
Ah non, mais non,
je sais pas ce que vous foutez de ce côté-ci du Rhin, quoi. C'est ça l'idée.
Nous, on est toujours super contents de jouer partout. Hein.
Évidemment, il y a des fans partout, mais bon.
On a juste envie de jouer, je crois.
Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de gens qui apprécient vraiment, vraiment la musique. Et en France, il y en a quand même moins que, par exemple, en Allemagne. Mais ça, c'est un incontournable, là encore. J'ai une autre question par rapport au clip Ghost for You, où on te voit, Amandine, en robe de mariée. Ça a beaucoup fait jaser les gens pendant 3-4 jours. Ça évoque votre mariage, en fait. Mais à quand le mariage en réel? Parce que je crois que sans dévoiler quoi que ce soit, je crois que vous êtes arrivé à peu près à l'âge du Christ. Hein, le mariage, ça serait une bonne idée, non?
écoute, franchement, On n'a pas discuté de ça du tout, mais
quand on n'attendait pas non plus à ce que vous annonciez ça officiellement sur Sweet Home Chicago. Ah,
mais par contre, c'était super drôle quand on a mis la photo en robe de ouais. Mario, parce que c'était le but, hein, on avait envie de faire une petite blague et ça a fonctionné. C'est drôle.
Je t'avoue qu'Amandine a eu beaucoup de mal à retirer la robe de mariée du clip. Hein.
C'est vrai. Peut-être autant de mal que d'essayer une vraie, finalement.
J'ai compris le message. Hein.
Très bien, mais je crois, oui, voilà, je crois que c'est bien noté, effectivement, Charlie. Il me reste cette question à laquelle tu as déjà répondu, Amandine, défendre ce nouvel album de Rosedale sur scène. Je sais que c'est un de vos plus ardents désirs. À quel point est-ce que la scène vous manque ?
Oh là là. Ah, c'est un manque viscéral, quoi. C'est on ne peut pas vivre sans ça, quoi. C'est là où on s'en rend encore plus compte. Personne, je pense, n'a pensé vivre ça un jour dans sa vie. Enfin, personnellement, je n'ai jamais pensé ne pas faire de musique pendant aussi longtemps. Mmh. Et puis pour même d'aller voir des concerts. Hein. Et c'est terrible, quoi. Donc, j'ai envie de dire à quel point, je crois qu'je trouve même pas les mots pour te dire à quel point j'ai hâte que ça reprenne pour jouer et pour aller voir des concerts.
Charlie, même question ?
C'est pareil, on se sent un peu comme des oiseaux sans ailes, j'ai envie de dire. Malgré les enregistrements, les studios et tout ça, notre vie, ça reste la scène, parce que quand on fait de la musique, c'est forcément pour la partager, l'échanger avec des gens. C'est l'objectif ultime, quoi. Voilà, sans public, il n'y a pas de musique. Et comme disait Amandine, aussi de voir des concerts, ça nous manque énormément, parce que on a tous une addiction dans la vie et la musique, c'est la nôtre. Et là, on en est privé depuis trop longtemps.
Eh bien, on sent la passion qui pointe à chaque instant depuis le début de cette interview. En tout cas, Amandine, Charlie, la toute dernière question. En dehors du fait de reprendre la scène le plus vite possible, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le reste de 2021, qui est déjà bien entamé, et 2022 ? Bien sûr, vendre tout plein d'albums et puis partager votre musique avec le plus grand nombre. Mais sinon, les prochains projets, ça serait quoi ?
Moi, j'ai envie de dire, si t'as raison et qu'on vend plein d'albums, qu'on fait plein de concerts, tout ce qu'il y a à souhaiter, c'est que tout le monde aille bien. Et voilà, quoi. C'est le principal.
C'est le principal. Quand on a vécu une année comme on a vécu tous, je crois qu'on se rend compte aussi, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte de ce qui est important dans la vie. Je crois que c'est déjà la santé.
Mmh. Oui.
Et puis profiter de la vie. Voilà.
Très bien. Ben, ce sera pratiquement le mot de la fin. Charlie, Amandine, il me reste à vous remercier, à vous faire de gros bisous, parce que j'espère qu'on va se revoir très très vite, en tout cas. Et puis, merci d'avoir participé à cette interview en direct. Vous vous êtes prêté au jeu des questions. Pour toute cette clarté, cette sincérité, cette passion qui vous anime, je vous dirai encore merci à tous les deux.
Merci à toi, à chaque fois. Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Rolling, fighting, failing and keeping and trying, waiting for wanting more. Illusion, confusion, being lost, changing direction against the stream, out of steam. In Before I go, Rosedale, encore merci, grand merci à Amandine et Charlie pour cette interview en direct que vous pouvez retrouver, si vous l'avez loupé, sur le podcast et le Mixcloud de l'émission très prochainement. Je vous rappelle le lien, c'est blues.radio666.com. Il nous reste à revenir sur le disque du mois, The Black Keys, Poor Boy, A Long Way From Home, extrait de Delta Cream. Et juste après, ce sera la vieillerie de la semaine et 50 Years After. Voilà, extrait de Delta Cream, The Black Keys, troisième extrait pour aujourd'hui avec Poor Boy, A Long Way From Home. Et puis en vieillerie, je vous propose de revenir en 1982 chez Delmark Records avec le grand Jimmy Johnson qui, rappelons-le, officie tous les samedis soirs à 21h heure française en solo depuis chez lui à Chicago pour votre plus grand plaisir. Et puis également ramasser quelques pièces parce que les musiciens en ont vraiment, vraiment besoin. Quand on est à Chicago, on n'est pas en France, il n'y a pas l'intermittence, donc... Eh bien, chacun fait comme il peut. Jimmy Johnson, à 92 ans, lui, continue à brandir le flambeau du blues. Voici un extrait de ce vinyle Country Preacher sur l'album North South. Jimmy Johnson. Et ça fait tout drôle de réécouter ça. 1982, je crois que j'avais acheté l'album pratiquement à sa sortie ou un an ou deux après. Enfin voilà, on est chez Delmark Records. C'est pas tout à fait les débuts non plus de Jimmy Johnson qui avait déjà 54 ans en 1982 et il continue, c'est ça qui est incroyable. Voilà, on va terminer avec la rubrique 50 Years After, les albums sortis en 1971 comme chaque semaine depuis le début de l'année. Voici maintenant Sticky Fingers chez Rolling Stone Records. Je crois que c'est leur premier album, 9e album en tout cas pour les Stones, mais premier album sur ce label, The Rolling Stone bien sûr. Alors bah, y avait l'embarras du choix bien sûr pour récupérer les meilleurs titres comme par exemple Brown Sugar, mais j'ai choisi Wild Horses. C'est avec ça qu'on va se quitter. On va se donner rendez-vous samedi prochain, samedi 12 juin avec le groupe Deeper Dan. Et puis on retrouvera Dan Zirotti dans quelques minutes pour le 12e Sweet Home, le 12e Moonshine Blues, Sweet Home Moonshine Blues. Voilà. Les Stones. Salut, bye bye.
Make me